Vous écoutez Cinéphile de notre temps.
Sur les eaux d'un lac, un garçon dit à une fille « C'est un mythe ». « Quoi ?» demande-t-elle. « L'adolescence, c'est un mythe ». Alors c'est une citation extraite du premier film de David Robert Mitchell, « The Myth of the American Sleepover », qui était inédit en France, et qui est passé, je crois, au Smell Like Teen Spirit l'année dernière.
Ouais.
Voilà. Donc si on voulait ouvrir l'émission par cette citation, c'est parce que j'ai l'impression qu'elle dit pas mal de choses sur les relations que le cinéma et l'adolescence entretiennent, cette idée de mythe, de fantasme, de réalité aussi. Enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, déjà, pour commencer ?
Oui, bah, c'est vrai que l'adolescence, pour moi, c'est aussi un terrain de projection. C'est-à-dire que, alors en cinéma, c'est particulièrement vrai. Dans d'autres formes d'art, on pourrait déplacer très légèrement le problème. Mais en tout cas, en cinéma, ce sont toujours des adultes, des créateurs adultes, qui mettent en scène l'adolescence. Il y a peut-être quelques contre-exemples, mais rien qui me vient comme ça à l'esprit. Mais on n'a pas de film réalisé par un adolescent, ou alors dans des formes très marginales. Dans le cinéma expérimental, ça arrive un petit peu. On a des cinéastes expérimentaux qui commencent très jeunes. Mais en général, en plus, ils ne parlent pas forcément eux-mêmes de leur vécu d'adolescence. Ça, on va vers autre chose. Donc du coup, on a quand même cette particularité, voilà, d'avoir l'adolescence mise en scène au cinéma comme une sorte de terrain de fantasme, presque de nouvel écran sur lequel des adultes projettent, que ce soit souvenirs, fantasmes, idées. C'est aussi un véhicule politique assez fort, cette période de l'adolescence. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que, très naturellement, on tend vers une forme de mythologie, on tend vers une représentation, surtout dans le cinéma américain, qui est très codifiée, et la codification, c'est très important pour la construction d'une mythologie. Donc, pour réagir à la citation, je partirais de ça. Je partirais de cette idée qu'il y a déjà naturellement un déplacement entre l'énonciateur et l'énoncié. Qu'on a des films qui peuvent être extrêmement personnels. Celui de David Robert Mitchell, j'ai pas la garantie, mais il me semble quand même que ça part, lui, d'un vécu, d'un souvenir. Il me semble que c'est tourné pas loin de là où lui-même a grandi. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'autobiographie, mais c'est quand même fait à au moins 15 ans, intervalle entre lui, son vécu, et le moment où il fait le film. Et c'est souvent le cas. Donc déjà ça, je trouve ça intéressant. Si on déplace vers la littérature, vers la poésie, quelqu'un comme Rimbaud, par exemple, bah, il décrit ce moment-là quand il est dedans. Donc on est dans quelque chose de très différent. Donc c'est ça qui est assez fascinant dans le cinéma, c'est qu'il y a une approche qui est quasiment d'emblée celle du souvenir, de la mélancolie, de la nostalgie.
Et donc presque du fantasme, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on est rarement dans quelque chose qui est de l'ordre du très concret. En tout cas, tout le monde ne le cherche pas, ou d'une autre manière. Si on va carrément vers quelqu'un qui s'est mis à filmer de plus en plus tard des adolescents comme Bresson, la figure de l'adolescent, elle est récurrente chez lui, mais elle devient quasiment systématique et omniprésente vraiment vers la fin, notamment dans Le Diable probablement. Et là, du coup, on a quelqu'un qui a, quand il fait le film, il a presque 80 ans, je pense. Donc là, on a un monsieur très âgé qui parle d'une jeunesse très contemporaine, en plus le film est extrêmement contemporain, sur la fin des années 70, sur le contexte. Et là, il y a un déplacement qui je trouve absolument fascinant, parce qu'on a presque l'impression d'un anthropologue qui filme un territoire inconnu, quoi. Mais c'est hyper beau aussi, c'est hyper beau.
Et on va y revenir au cours de l'entretien, mais est-ce que toi, tu t'y retrouves dans ce fantasme ?
Personnellement, je sais pas. Moi, j'ai un rapport assez particulier à mon adolescence. Je pense que, comme tout le monde, c'était un moment formateur. Et en même temps, moi, j'ai pas de regrets de mon adolescence. J'étais très frustré de beaucoup de choses que je pouvais pas faire. Comme tout le monde aussi. Mais voilà. Donc, j'ai pas de nostalgie par rapport à ça. J'entends parfois des gens dire, ouais, le lycée, c'était vraiment les meilleures années de nos vies. Ça me fait toujours bondir quand j'entends ça. Donc je ne me retrouve pas forcément dans cet aspect nostalgique d'Éden perdu ou je ne sais pas quoi. Mais le décalage m'intéresse. Le fantasmatique m'intéresse. La mythologie m'intéresse. Parce que c'est tout ça, c'est des puissances du faux. Et le cinéma, c'est quand même, je trouve, souvent fascinant pour ça, pour cette célébration du faux. Et puis aussi parce que ça, c'est des personnages qui ont une intensité émotionnelle qui est quand même assez fascinante. Enfin, tu peux te permettre de mettre en scène des personnages adolescents avec des réactions aussi fortes, alors que en déplaçant le truc sur des adultes, parfois ce serait un peu plus compliqué. Il y a des cinéastes qui y arrivent, que ce soit Linklater quand il fait Everybody Wants Some, qui est un film qu'on avait aussi montré hors les murs à l'Archipel il y a quelques années. Là, c'est très bizarre parce que déjà, les acteurs sont vraiment beaucoup plus vieux que les personnages qu'ils interprètent, mais pas comme c'était le cas dans les années 80-90 où une actrice de 25 ans jouait parfois une adolescente de 15, 16, 17, 18 ans. Là, c'est vraiment volontairement bizarre. Ils ont des physiques d'adultes de 30 ans, pour certains, et ils jouent des gens qui viennent de rentrer à la fac. Donc, il y a un décalage d'entrée qui est juste et extrêmement perturbant et qui, du coup, fait que voilà, on joue sur des émotions adolescentes avec des corps adultes très matures. Et c'est très, très perturbant pour le spectateur. On l'accepte presque pas. C'est ce qui fait que le film, je trouve, particulièrement étrange et fascinant. Ouais. Et même quelqu'un comme Lynch, j'imagine qu'on en reparlera peut-être après, c'est quelqu'un qui a une manière de filmer très, très émotionnelle, très, très dans l'affect. Et ça, parfois, ça passe par une rencontre avec les figures de l'adolescence, mais souvent, je pense que c'est aussi lié à, voilà, lui, son approche émotionnelle du monde. Et je pense que c'est aussi pour ça que, enfin, moi, je sais que c'était le cas, mais que Lynch, en tout cas pour un jeune cinéphile, c'est toujours quelque chose de très, très, très important. Parce que je pense qu'il a un monde émotionnel qui est connecté à ça aussi. Et puis qui est aussi traversé par ces questions de nostalgie. Quelle que soit la manière dont on approche son œuvre, on se rend compte que la période de l'adolescence, de la jeunesse, elle a aussi quelque chose de très, très, très important chez lui. Donc oui, voilà, ça m'intéresse pour toutes ces raisons-là.
Notre invité a une cinéphilie un petit peu bicéphale, à la fois penchée sur des grands films populaires et à la fois sur un cinéma plus pointu. Tu es membre du Viewing Committee du Festival de Locarno et programmateur adjoint au Grand Action, l'une des plus vieilles salles art et essai de Paris. Et dans ce cinéma, tu as cofondé le festival Smells Like Teen Spirit, un festival qui aura lieu fin octobre, du 30 octobre au 3 novembre de cette année, qui est dédié aux teen movies, aux films de teen movies, qu'on vous conseille tous. Et enfin, tu as tourné dans un film de Quentin Papapietro, pardon, Enfumé, une comédie musicale autoproduite sur notre génération désillusionnée qui propose à tous comme solution miracle « Enfumons-nous ». Donc on trouve assez merveilleux, ça pourrait être le titre d'un film. Et donc bonjour Victor Bournerias, on est ravis de t'avoir parmi nous. Et on va commencer par te faire un petit portrait chinois de ta cinéphilie. Je laisse Clément prendre la suite.
Voilà, du coup, toute première question, on revient directement à l'adolescence parce qu'on t'a demandé un lycée de cinéma.
Et du coup, j'ai choisi celui de Twin Peaks, voilà. Parce qu'il est extrêmement présent tout au long de la série, particulièrement si on pense, voilà, pour moi Twin Peaks c'est toujours un peu compliqué maintenant qu'il a fait une suite, que je trouve absolument extraordinaire, mais qui est presque étrange à connecter au reste. Mais si on pense particulièrement aux deux premières saisons et au film, le lycée c'est là où tout s'est joué, et en même temps c'est un endroit qui est assez peu filmé. C'est-à-dire qu'il a quelques occurrences. Il est là, on le voit tout le temps, parce qu'en fait, c'est le générique qui est extrêmement fort avec l'arrivée sur la photo de Laura Palmer. On a très souvent des plans de l'ordre du cauchemar qui reviennent, où on voit les fameux traits sur les murs. Il est souvent fait référence dans les situations et dans les dialogues à des choses qui se sont jouées au lycée, mais au final, on a très très peu de scènes qui se passent, qui sont mises en scène dans le lycée. Donc c'est pour ça que moi ça m'intéresse, parce qu'on a l'impression que le lycée devient une sorte de, presque, avec comme son système de lodge, de black lodge, de white lodge, il y aurait aussi le lycée qui serait une autre caisse de résonance auquel le spectateur n'a pas accès, mais où une partie des conflits et des névroses auraient eu leur origine. Et voilà, et on sait que beaucoup de choses qui arrivent dans l'univers de Twin Peaks partent de là, mais on n'a pas forcément assisté à la naissance. Donc c'est en ça que je le trouve assez fascinant. Et parce que ça dit beaucoup de choses sur ce que c'est aussi qu'un lycée, que l'école, que la période de l'adolescence, d'une manière bien sûr très, très emphatique chez Lynch. Mais je pense qu'on se retrouve tous dans cette question-là, de l'école comme une source, un microcosme, un lieu de déclencheur, un lieu de conflit, et en même temps un lieu de rencontre, des premiers amours. Et tout ça, il le dit en le filmant pas, quasiment.
Mais moi, je le trouve justement assez anonymisé, enfin, dans le sens où on ne le voit pas et on n'en voit que des boucles. Moi, je me souviens de la scène dans les toilettes où il y a cette magnifique actrice, Audrey. Et j'ai ce souvenir-là et le souvenir dans la classe où on apprend que Laura est morte. Mais sinon, on n'a pas le souvenir, en fait. Il est hyper banal. On en a.
Et en même temps, du coup, il y a aussi tous ces plans qui reviennent sur des travelling dans les couloirs du lycée vide où on voit les casiers et où on voit ce truc. Alors, je ne sais plus, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps que le lycée dans lequel ça avait été filmé devait être détruit ou venait d'être détruit. Et je n'ai pas su, du coup, si... parce qu'apparemment, il y avait toujours les fameuses lignes, ces espèces de lignes très, très étranges dans un zigzag rouge. Et je n'ai pas su si c'est quelque chose qu'ils avaient trouvé ou qu'ils avaient peint sur le lycée et que le lycée avait gardé, parce que c'était cool. Mais voilà, il y a quand même ces plans-là qui sont récurrents, qui n'ont quasiment pas d'utilité dans l'avancée narrative, mais qui sont quand même une espèce d'obsession récurrente, une sorte de morceau de cauchemar bloqué qui revient tout le long. Donc oui, il est très peu là, mais en même temps, il est toujours là, quoi. C'est ça qui est fascinant.
Bah parfait. Sans vraie transition, on va passer à un autre objet. La paire de lunettes de soleil au cinéma.
Et là, du coup, j'ai choisi They Live, Invasion Los Angeles. J'ai pensé répondre au personnage, mince, je ne sais plus le nom de l'acteur, mais à Breakfast Club. Je me suis dit juste après Twin Peaks,
on
pouvait quand même parler d'autre chose. Et puis quand même, les lunettes de soleil, c'est toujours un objet de cinéma presque quasiment hors d'écran. C'est vrai que la star de cinéma porte des lunettes de soleil, mais pour moi il n'y a pas de paire de lunettes de soleil plus fascinante que celle du film de Carpenter.
On a tous envie de les
voir. Parce que soudainement, oui, alors moi je sais pas,
ou
si
alors,
j'aimerais
ça, parce que c'est
pas vraiment
quand même, hein,
c'est très angoissant comme idée, mais il y a ce truc que les lunettes de soleil, souvent ça sert à dissimuler le visage, soit à cacher des marques, tout de suite c'est un objet qui mythifie un peu la personne qui les porte, et là il inverse complètement le truc avec une idée de scénario quand même complètement incongrue et incroyable, et les lunettes de soleil servent à démythifier le monde qui entoure le porteur. Et c'est quand même, je trouve, une espèce d'inversion sémantique de l'objet assez fascinante.
Ce qui fait que quand on regarde des pubs, il y a marqué en très gros consommé.
C'est fascinant. Enfin, ça révèle le monde sous son vrai jour, qui cacherait tout un complot extraterrestre. Enfin, les lunettes de soleil comme une idée de filtre au réel, c'est quand même, je trouve, assez fascinant comme objet de cinéma.
Et toi, tu les voudrais dans la vie de tous les jours ou pas ?
Je me pose la question. C'est un peu l'équivalent de la pilule dans Matrix, quoi. Après, en fait, c'est ça. C'est est-ce que au moment où on me proposerait les lunettes, je saurais les conséquences que ça aurait déjà ou pas ? En ayant vu le film, je sais pas si j'accepterais, honnêtement. Il y a quand même ce confort de rester dans l'inconnu.
Oui, mais de pas voir.
De pas voir. Je sais pas si je peux répondre oui ou non à la question comme
ça. On laisse le mystère alors et on passe à la dernière partie de ce portrait.
C'est ça, donc la chanson de cinéma était choisie du coup à la toute fin de Holy Motors, Revivre de Gérard Manset.
Ouais. Tout à fait. C'est pareil, au début j'avais pensé répondre vraiment à une chanson où les personnages chantent.
On attendait ça de toi.
Ouais. J'avais pensé peut-être évoquer Paul Vecchiali, dont j'adore les films. Il y a toujours des chansons absolument merveilleuses. Mais je me suis souvenu quand même de la première fois où j'ai vu Holy Motors de Carax. Et c'est vrai que Gérard Manset, pour moi, c'était un chanteur que je connaissais assez mal et j'aimais pas forcément énormément ce que j'avais entendu. Mais en effet, cette scène vers la fin du film où on a la chanson qui arrive, qui a une sonorité, alors en plus voilà, j'ai réécouté la chanson
derrière. Elle est, étrange,
elle est extrêmement étrange. Il y a une sonorité très très spectrale.
Et la façon et même de dire les mots.
Oui, oui, oui. Il y a une diction, il y a une poésie dans le langage qui est extrêmement particulière, qui colle particulièrement bien au film. Et moi, j'étais convaincu que c'était quelque chose qui avait été travaillé pour le film, mais pas du tout. La chanson, elle est telle quelle. Alors que en le découvrant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Parce qu'en plus, on a cette sensation très très rare. D'avoir quelque chose dont on a vraiment l'impression que la musique sort du film, quoi. Quand c'est tellement en symbiose l'image et le son à ce moment-là que ça ne peut pas ne pas avoir été pensé ensemble. Et en fait, bah non, ça existe, c'était là et c'est juste un très beau choix, comme souvent ça arrive. En fait, les choses les plus fortes sont parfois des espèces de hasards de rencontres assez incroyable. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est un moment extrêmement marquant du film. Et en plus, moi j'adore, je suis aussi quelqu'un qui écoute énormément de musique, et j'adore découvrir de la musique dans un film. Je trouve ça toujours génial, parce qu'après tu t'approcheras toujours la musique avec l'émotion que t'as eue devant le film, et
c'est vrai.
Toujours très très beau et très agréable.
Et qu'est-ce que tu ressens quand tu l'écoutes revivre?
Bah, je me souviens toujours du film. Et en même temps, je pense que si j'avais découvert la chanson sans le film, j'aurais été juste frappé par son incroyable tristesse et noirceur. Et en même temps, en passant par le film de Carax, il y a presque, je dis bien presque, une forme de joie dans la chanson, en fait. Une sorte de manière de... comme une complainte, quoi. Un espèce de truc où on met tellement en scène le malheur qu'en fait, on a presque une forme de plaisir à faire sortir ce malheur, et je trouve ça quand même très très beau. Et je sais pas si j'aurais approché la chanson de cette manière là sans l'avoir associée au film et à tout son parcours labyrinthique, qui voilà joue aussi beaucoup avec ce genre d'émotion très forte.
En fait, on va passer à la deuxième partie du portrait qu'on appelle, nous, circonstances et conditions de visionnage. Et la première question à laquelle on a pensé pour toi, c'est vraiment le lieu, en fait. Est-ce qu'un lieu, donc, que ce soit la salle de cinéma ou autre chose, influe sur ta façon de voir les films, en fait ? Et tu nous as répondu, bien sûr. Se développer un petit peu.
Oui, oui, parce que, forcément, un film, pour moi, un film aura jamais sa pleine puissance s'il n'est pas vu sur grand écran, dans une salle de cinéma. Après, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Il y a salle de cinéma et salle de cinéma. Et je pense que chaque film peut avoir sa place aussi. Il y a des films qui parfois besoin d'être vu dans des grandes salles avec une très bonne chaîne de son, et il y a des films qu'on pourra toujours voir mal assis sur des petites salles avec un projecteur pas très bien réglé, et c'est pas très grave. Donc il y a aussi, voilà, moi je suis pas toujours un adepte du bigger is better. Je trouve qu'il y a des films qu'on n'a pas besoin de voir dans des salles de 600 places avec un écran de 15 mètres de base. Ils atteignent leur pleine puissance n'importe où, alors qu'il y a des films qui ont besoin de ce côté un peu feu d'artifice. Mais c'est sûr que moi j'ai toujours été au cinéma très tôt, mes parents m'emmenaient au cinéma. Après, j'ai pas grandi à Paris, donc j'avais un cinéma en centre-ville. Donc j'ai aussi beaucoup vu de choses à la télévision, avec des cassettes, puis après avec Internet. Donc bien sûr que la cinéphilie aujourd'hui, elle se vit plus que dans les salles de cinéma, mais elle reste pour moi toujours associée à ça. C'est le lieu par excellence pour vivre un film. Mais en même temps, voilà, tout le monde n'a pas accès à une très bonne salle de cinéma, ou quand il y a une salle de cinéma, elle ne programme pas toujours les bons films. Donc je n'irai jamais dans cet absolutisme de dire qu'un film ne se voit que dans une salle de cinéma, parce que c'est quelque chose qu'on peut dire quand on a le luxe de pouvoir voir des films que dans des salles de cinéma. Et tout le monde ne l'a pas, ce luxe.
Bon, on anticipe un petit peu les questions de transmission, mais je pense que c'est très lié aux conditions. On t'avait demandé aussi un film qui, dans ton parcours, a été très très difficile à programmer en pellicule, mais où ça te semblait quand même nécessaire, en fait.
Oui, et je crois que j'en ai nommé deux.
Exactement.
Du coup, parce que j'aime bien
tout répondre
à deux aspects. Oui, il y a Neurose Hotel d'Abel Ferrara et Saint-Cyr de Patricia Mazui. Et dans les deux cas, j'ai répondu ça parce que ça n'a pas non plus été des batailles impossibles pour trouver les copies. Il faut savoir qu'en fait, au niveau du Grand Action, on a quand même un budget qui fait que naturellement, je ne peux pas aller chercher une copie en archive, en cinémathèque ou à l'étranger. En fait, on pourrait pas se permettre de projeter des copies comme ça parce que souvent, elles coûtent cher, il y a des frais de transport. Et voilà, nous, les copies qu'on montre en Grand Action, les copies pellicules, c'est les copies pellicules qu'on arrive encore à trouver auprès des distributeurs, parfois auprès du cinéaste ou du producteur directement, s'ils ne demandent pas des prix extrêmement conséquents. Parce que voilà, on a un budget de fonctionnement qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire venir des copies des quatre coins de la planète. Donc, c'est rare quand même que... très vite, moi, quand je programme, c'est je peux l'avoir ou je ne peux pas. Et si je ne peux pas... de manière facile, c'est-à-dire si je ne peux pas trouver une copie en France, je ne vais pas chercher plus loin. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que quand la Cinémathèque programme, où là, en effet, le but, c'est d'aller trouver une copie où elle peut être trouvée. Et là, ça peut prendre extrêmement de temps de remonter les chaînes d'ayant droit, de contacter les producteurs d'époque ou non, ou les gens qui s'occupent de... Là, voilà, ça, c'est en effet un travail extrêmement fastidieux, mais que moi, je n'entreprends pas par rapport aux grandes actions. Donc, les deux films que j'ai choisis... c'est pas tant la difficulté qu'on a à trouver les copies que j'ai l'impression, la difficulté que ces films-là ont eu à être montrés. Parce que pour moi, Ferrara, c'est toujours un cinéaste dont on se souvient quasiment des trois mêmes films. Alors que pour moi, Neurose Hotel, qui est un film complètement accidenté, je crois que c'est Christopher Walken ou Willem Dafoe qui considère que le film est toujours pas terminé et qu'il attend toujours qu'il termine le film. C'est une période où Ferrara était un cinéaste extrêmement, extrêmement compliqué, je pense. Mais en même temps, c'est un film que je trouve absolument fascinant, absolument incroyable. Et la pellicule. La copie, je l'avais trouvée chez un distributeur, et je pense que c'est la seule fois où j'ai entendu parler de ce distributeur. Je sais même pas si c'est le distributeur qui avait sorti le film à l'époque. Ça avait été déjà une sortie assez compliquée, assez confidentielle. Et voilà, c'était juste un distributeur qui avait la copie dans son couloir, dans son bureau à côté des Champs-Élysées. Et la fois où j'ai eu besoin du film pour le projeter en présence d'Abel Ferrara, il m'avait répondu tout de suite, on l'avait eu, il n'y avait pas de problème. Quelques années après, j'avais voulu le reprogrammer, ça avait été un peu plus long de le contacter, de machin, de trucs. Et puis, une troisième fois, j'avais voulu retrouver le film pour le programmer dans un autre cadre. Là, j'ai plus eu de réponse. Parce que je ne sais pas si la société a disparu, si tout ça. Mais donc, et ça, c'est toujours ce qui est très triste, c'est que souvent, le film n'a pas disparu, il est toujours là. J'espère certainement une copie. Source ou des négatifs quelque part, j'espère, sur quelqu'un comme Abel Ferrara, malheureusement, il peut aussi y avoir des surprises. Mais voilà, s'il n'y a plus le distributeur, la copie, elle est passée où, je ne sais pas. Donc c'est ce truc-là, et c'est curieux, parce qu'en même temps, voilà, le film lui-même, il a presque un statut de truc, d'objet absolument incongru, mal aimé... Donc même sa copie, elle ressemble un peu au film, un truc qui apparaît et qui disparaît un peu de temps en temps. Et Saint-Cyr, pareil, le distributeur d'époque qui avait fait la sortie du film en 2000 l'avait plu, mais il m'avait tout de suite mis en contact avec la société de production du film, qui travaillait de toute façon encore avec Patricia Mazui, donc c'était assez simple, voilà. J'avais été aiguillé vers eux, ils avaient une copie 35, ça c'était facile. Mais c'est pareil, c'est aussi parce que pour moi c'est un film qu'on voit assez peu, alors qu'en plus la copie 35 elle est très très belle, très 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 belle, et c'est pas toujours le cas pour des films comme celui-là, 20 ans, là la copie elle est encore super belle, elle sort très peu. Et voilà, la difficulté, c'est aussi ça, c'est aussi d'arriver à montrer le film avec le public. On l'avait passé pour Smells Like Teen Spirit, Saint-Cyr. On avait invité Patricia Mazui, et ça nous intéressait, parce qu'on ne peut pas appeler Saint-Cyr un teen movie au sens classique, mais en même temps, c'est un film qui se passe dans une école de jeunes filles. Donc, quelque part, on a aussi tous les codes. On a aussi toutes ces émotions, ce sentiment très particulier... en même temps, on a aussi un film de Patricia Mazui, donc une certaine force dans la mise en scène, une certaine certaine approche extrêmement particulière du jeu. Là, pour le coup, on a quand même, pour une fois, un film où les adolescents sont joués par des vrais adolescents. On a même une actrice qui est plus jeune que le rôle. Et ça, c'est extrêmement curieux. Et elles sont toutes absolument incroyables, face à Huppert en plus, ce qui est quand même quelque chose. Et voilà, et pour moi là, c'est un peu comme Ferraras, toujours un cinéaste adulé pour une poignée de films. Patricia Mazui, c'est le contraire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait quasiment que des films extraordinaires, mais dont on parle jamais assez. Et pourtant, pour moi, c'est sûrement une des cinéastes en activité aujourd'hui les plus importantes en France, quoi. Et Saint-Cyr, c'est un film. Son dernier film, je comprends qu'on trouve ça étrange, qu'on se pose des questions. C'est un film hyper bizarre. C'est un film qui tente des trucs un peu ingrats que je trouve fascinants, mais ça va vachement gratter, quoi, à des endroits qui sont assez inconfortables, je pense, pour les spectateurs. Ouais. Pourtant, Saint-Cyr, pour moi, c'est une espèce de fresque historique. C'est un grand film populaire. Et c'est voilà, pour moi, c'est un film qui peut être montré à tout le monde et qui aurait pu très bien marcher. Donc, bon.
Et son dernier film, c'est
Paul Sanchez est revenu.
Qui est sorti maintenant, il y a...
pas cet été, mais
ouais, l'été d'avant, encore, c'est ça, ouais. 2018. Ouais.
Avec des choses bizarres, ouais. La musique de John Cale.
Ouais, qui est déjà sur Saint-Cyr.
Ah ouais.
Déjà sur Saint-Cyr, ouais. Alors, est-ce que Saint-Cyr, c'était la première fois où ils bossaient ensemble? Je crois que c'était leur première collaboration. Et comme pour Paul Sanchez, la musique de Saint-Cyr est incroyable. Incroyable parce qu'en plus, du coup, ça prend complètement le contre-pied. En général, un film 18e siècle en France, on va se taper le best-of de la musique baroque. non pas que j'aime pas ça, mais on l'a déjà entendu. Et du coup, cette idée d'aller chercher John Cale et d'avoir une sorte de bande-son, une sorte de rock un peu épique et en même temps un peu atmosphérique. C'est fascinant, je trouve. Sur un film comme ça, c'est fascinant.
Dernière question.
Oui, c'est ça. Toujours sur la pellicule, son importance encore aujourd'hui, quand même. Donc, on t'a demandé aussi, pour toi, selon toi, le film à voir en pellicule par excellence.
Liberté la nuit de Philippe Garrel.
C'est bien les choses parce qu'il y a une petite rétrospective.
Ouais, j'y ai même pas pensé. Et en plus, j'ai pas le catalogue en tête, mais je me demande s'il n'est pas projeté en numérique à la Cinémathèque. Parce que Philippe Garrel, ça a très longtemps été quelqu'un, je pense qu'il tourne encore en pellicule et il voit encore les films au montage en pellicule. Mais pendant très longtemps, il voulait même pas faire numériser ses anciens films. Et je crois quand même, voilà, aujourd'hui, s'il veut qu'il soit diffusé correctement, il en avait besoin, donc il a fini par le faire. Mais il y a quelques années, quand on montrait n'importe quel film de Philippe Garrel, on faisait toujours sortir une copie de ces films qui sont d'ailleurs stockés ici à la Cinémathèque. Et voilà, et c'était toujours la copie 35mm et il voulait pas entendre parler de la numérisation. Et aujourd'hui, il finit par le faire. Donc, j'ai jamais vu le film en numérique, donc je peux même pas dire je choisis ce film-là parce que je sais que c'est vraiment pas beau et c'est pas le même film en numérique. J'ai choisi Liberté la nuit principalement parce que c'est un de mes films préférés de lui, mais j'aurais pu choisir à peu près n'importe quel film de cette période-là, du début des années 80, parce que c'est un moment où il fait des films avec son savoir-faire de toute sa période underground, où on est dans un cinéma très plastique, très visuel, où la photographie, souvent en noir et blanc, est en général assez exceptionnelle. Pour des films qui sont faits avec peu d'argent, je trouve que c'est des films qu'on devrait systématiquement montrer dans toutes les écoles de cinéma, quoi. Parce que sur l'image, sur la photo, c'est d'une richesse, alors que c'est fait avec rien du tout. C'est incroyable. Et donc là, il arrive sur sa période, ce qu'on appelle, en tout cas, sa première période narrative, avec ce savoir-faire. Et soudainement, il se met à filmer, par contre, des scénarios, des histoires d'amour tragiques, comme dans le cas de Liberté la nuit, mais avec, du coup, un sens de la photo et une sensualité dans l'image qui est incroyable et qui est, pour moi, intimement liée à la pellicule, également dans la projection, parce qu'il y a une vibration, surtout dans Liberté la nuit, qui est un film qui se passe en bord de mer, alors que c'est en noir et blanc. Donc, on a cet effet de reflet très particulier de la mer qui vibre comme la pellicule. Et donc, du coup, ça, à la projection, ça rend de manière incroyable, surtout ce plan de fin où le personnage se fait tuer face à la mer.
Spoiler.
Ouais, désolé. Bon, c'est très grave. Je sais pas si beaucoup de gens aiment pas, enfin voilà, se plaignent d'être spoilés des films de Philippe Garrel.
Je pense que
s'il y en a,
désolé.
Tant mieux pour eux et désolé, mais du coup je suis content de découvrir qu'il y en a. mais voilà, il y a des choses de cet ordre-là dans L'Enfant Secret, où en plus, je crois, dans L'Enfant Secret, il a tourné quelques scènes avec un appareil lumière. Donc là, c'est pareil, on a en plus cette espèce de rythme très mécanique. Et ça, c'est vraiment incroyable quand c'est projeté en 35 mm. Mais du coup, encore une fois, j'ai pas vu les DCP qui existent de ces films. Donc ça se trouve, les DCP, j'espère, sont très bien faits et on perd pas ce truc-là. Mais j'ai du mal à croire qu'on perdra pas un tout petit peu quand même.
Alors, on va passer à notre troisième partie du portrait qu'on a intitulé « Mémoire et sommeil ». Et on commence avec une première question, justement. On va revenir à l'adolescence, parce qu'on t'a demandé un souvenir marquant, en fait, dans ta cinéphilie adolescente. Et là, t'as choisi deux films que t'as vus la même année.
Alors, la même année, je pense pas, parce que...
Non, pardon, donc t'as vu en salle à leur sortie.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je pense que Elephant, la sortie en salle, c'était 2003.
C'est ça.
Et Mysterious Skin 2005.
Quel âge avais-tu ?
2003, j'avais... Alors, le film est sorti à quel mois, ça, je sais plus. J'avais 11 ou 12 ans. Et 2005, j'en avais donc 14, je pense. Donc, du coup, j'ai vu ces deux films-là qui sont quand même...
Hyper durs,
assez jeunes. Et je les ai choisis parce que, voilà, dans les deux cas, ce sont des films quand même extrêmement choquants. Donc, qui m'ont marqué aussi pour ça, parce que ça m'a imprimé en tant que spectateur.
Pour recaler Elephant, donc ça parle de... On est dans un lycée américain où il va se passer une fusillade, un peu la préparation. Et dans Mysterious Skin, c'est deux adolescents au passé un peu troublés, quoi.
Voilà,
qui ont été victimes
d'abus sexuels de la part de leur... C'est quoi ? C'est leur prof
de sport.
Prof de sport, coach de baseball.
C'est ça.
Voilà, et ces deux... Le film a une certaine densité narrative, puisque on les suit jeunes adultes, et comment ils réagissent de manière extrêmement, diamétralement opposée à ce souvenir traumatique. Et en même temps, le film remonte le fil du souvenir traumatique. Parce que je crois l'un des deux, j'ai pas revu le film depuis longtemps, mais il me semble que l'un des deux a complètement enterré ça en le faisant passer pour un enlèvement par des aliens, jusqu'à ce que le vrai souvenir revienne à la surface. Enfin bon, on est quand même dans, en effet, deux films qui gèrent une violence à l'encontre de la jeunesse assez extrême. Mais j'ai choisi ces deux-là parce que c'est en même temps un peu pivot dans ma cinéphilie, parce que Elephant, c'était un film que mes parents m'avaient emmené voir, donc on est allé le voir en famille. Le film, je pense qu'il me l'avait montré comme quelque chose d'un sujet de société. Le film avait eu la Palme d'Or à Cannes, donc j'ai vaguement le souvenir que c'était quand même un truc très commenté dans les journaux. Et malheureusement, les États-Unis ont fait en sorte que ça reste très récurrent dans l'actualité. Donc, je pense que mes parents m'avaient emmené principalement pour ça. Et moi, je me souviens d'avoir été marqué principalement pour plein d'autres trucs. Même si le film parle de ça et qu'on ne peut pas dire que le sujet ne soit pas traité, j'ai aussi des souvenirs très, très vifs de ces travelling, de la manière de filmer les personnages, les couloirs, de cette manière aussi de faire un film sur le sujet, mais de refuser d'être un film à sujet. Alors, bien sûr, je l'aurais particulier comme ça à l'époque, mais je me souviens que ça m'avait particulièrement perturbé, qu'il cherche pas plus que ça à expliquer. C'est-à-dire qu'il filme les tueurs comme une force brute, et il donne deux petits trucs. On comprend qu'ils ont une sexualité, un rapport à l'homosexualité qui est peut-être douloureux, puisqu'on les voit à un moment s'embrasser
sous la douche,
et en même temps, ça n'a pas d'autre incidence dans leur vie. Donc est-ce que voilà, c'est des gens qui vivent ça mal, qui peuvent pas le vivre ouvertement et qui donc ont quelque chose qui part de ça, et on en voit un jouer à un jeu vidéo un moment, mais c'est quand même deux choses qui n'expliquent rien, et je sais même pas si lui les a mis là de manière à trouver, à argumenter. Enfin voilà, c'est, je me souviens que ça m'avait vraiment intrigué, quoi, d'avoir un film qui se place dans la mise en scène de l'événement, mais qui cherchent pas forcément à dire le pour, le contre, l'argument, le contre-argumentaire, enfin qui cherchent pas à, voilà, à régler ça comme si c'était un problème de maths. Et en fait, parfois, on attend ça du cinéma et c'est pas fait pour ça. Donc ça, ça m'avait très fortement marqué. Et Mysterious Skin, c'était, voilà, du coup, quelques années après, c'était l'autre côté. J'allais déjà au cinéma tout seul. Je crois que là, j'y étais allé avec des amis qui m'avaient, je pense, pris pour un barjot en sortant de la séance. Et là, c'était complètement autre chose, quoi, d'y aller seul, de découvrir le film. C'était le premier film que je voyais de Greg Araki, qui est un cinéaste dont j'ai tout vu après, que j'aime énormément. Et voilà, et que ces deux chocs-là, en plus, soient des films sur l'adolescence, je pense que ça m'est resté aussi. Du coup, moi, ça me permettait de vachement relativiser. Je n'étais pas un adolescent très heureux, mais en même temps, je me disais, ça va. il y a pire, franchement. Donc, c'est aussi ça, des forces du cinéma, quoi, d'arriver toujours à te renvoyer à ta propre vie et en fait de l'accepter, quoi. Finalement, il se passe des choses extrêmement intenses à l'écran. Et finalement, c'est cool que cette intensité soit pas toujours là dans ta vie de tous les jours.
Mais on va rester avec Gus Van Sant, parce qu'on t'a demandé un souvenir de film en festival et qui t'a fait tomber dans le sommeil, mais dont tu gardes quand même un bon souvenir.
Et du coup, j'ai choisi Paranoid Park, que j'ai vu encore adolescent. Il se trouve que j'étais dans un lycée où on avait une option cinéma et qu'ils emmenaient toujours toute la classe au Festival de Cannes. Donc j'ai quand même eu ce truc assez dingue d'être au Festival de Cannes à 16 piges. Ouais, c'est pas mal, et en même temps, t'y as pas ta place. C'est quand même un événement complètement professionnel et où le spectateur normal, entre guillemets, n'a pas sa place. Donc, bon, quand t'es adolescent, c'est marrant, c'est drôle, mais quand même, c'est pas un contexte super agréable, quoi. Et du coup, on avait vu Paranoid Park à la projo de 8h30 le matin, donc même si les nuits cannoises n'étaient peut-être pas aussi folles à 16 ans, on était quand même des ados dans des chambres d'hôtel, donc on se couchait pas non plus super tôt. Donc 8h30, c'était quand même pas la meilleure heure pour voir un film. Et le film étant quand même un puzzle narratif complètement déconstruit, reconstruit, je pense que j'avais pas compris grand chose du film en sortant de la projection. Mais en même temps, quand j'avais compris un truc, je le trouvais super beau. Donc je me souviens extrêmement bien de cette séance pour la scène de la douche, avec son son
bruit d'oiseau,
complètement déréalisé, recréé, avec voilà, les bruits d'oiseaux, enfin ce truc incroyable. Enfin voilà, j'ai des souvenirs. Cette première projection, j'en ai des souvenirs plastiques très forts. Mais j'avais pas entravé. Après, en fait, l'histoire, elle est faussement compliquée. Elle est quand même assez simple. Il adapte un roman qui était déjà une reprise d'une trame de Dostoïevski. Et c'est juste, voilà, un adolescent qui tue accidentellement quelqu'un et commence à l'impact dans sa vie. Et en fait, le film ne fait que jouer, pareil, avec énormément de codes, du teen movie, des trucs de la popularité, le skate, la petite amie un peu lourde, voilà, l'ami à qui on se confie. Enfin, en fait, c'est quand même plein de choses qui sont voilà, remises en jeu, je trouve, par le film, d'une manière très ludique. Et donc, il déconstruit, c'est pas dans l'ordre, tout ça, mais... Je trouve que ça en fait, c'est pas non plus Citizen Kane. C'est-à-dire qu'on n'accède pas au sens une fois qu'on a remis le puzzle dans l'ordre. Le truc est éclaté parce que je trouve que c'est la bonne manière de faire ressentir les choses d'un point de vue émotionnel. Et donc c'est vrai que moi j'ai dû somnoler très vaguement pendant toute la durée du film. Donc tout le côté narratif, il est passé à la trappe. Et par un hasard incroyable, le soir, on cherchait des places pour des copains. Et genre, 3 minutes avant le début de la séance, on me file 2 places pour être assis juste derrière l'équipe du film. Et donc, j'étais avec quelqu'un d'autre de la classe. Je fais, bon, on y va, non? Du coup, on l'a vu ce matin, mais tant pis, on y va. Donc, on y va, on est assis juste derrière l'équipe. C'était super marrant. Et là, je vois le film sans somnoler, sans rien du tout. Je me dis, ah oui, quand même. Là, il y a quelque chose... Là, pour le coup, j'ai toute la structure narrative. Je me rends compte que le film est quand même assez drôle. Alors que le matin, du coup, en retirant la narration et en étant pris surtout par le son, le côté plastique, j'avais vu un film très, très sombre. Là, je vois que c'est un film dur, où il y a des passages un peu violents, mais c'est en même temps très drôle. Et voilà, c'était très drôle d'avoir ces deux visions dans la journée. Et on a repassé le film l'an dernier, et je l'avais pas revu depuis. Et 10 ans après, c'est pareil, des fois aussi le souvenir qu'on a d'un film versus le film tel qu'il est aussi, donc réactualiser comme ça un peu son rapport au film, c'est toujours très curieux. Pareil, c'est là où j'ai vraiment vu le côté presque théorique du rapport au teen movie, de mettre tous les clichés quasiment possibles et en même temps du coup de les évacuer dans le système narratif, de voir que c'est pas juste un film sur l'adolescence, c'est presque aussi un film sur le teen movie en tant que genre. Et ça, c'était pareil, une troisième manière de découvrir le film qui était assez curieuse. Et la musique et le son.
Incroyable. Ouais.
Ça fait partie de ces films qui pourraient presque être entendus en coupant l'image. C'est incroyable. Il y a toute une variété de chansons qui sont à la fois des choses très adolescentes, du punk hardcore.
Il y a du Elliott Smith.
Du Elliott Smith, des choses extrêmement. Voilà, des choses que des personnages de cet âge-là écouteraient. Et en même temps, il y a un travail sur les soundscapes. Il y a une composition de Danny Elfman. Ça va dans
tous les sens. Il y a une réutilisation de BO de Nino Rota.
Non, mais. C'est
un paysage sonore, vraiment.
Ouais, pour moi, c'est peut-être un des films sonores les plus fascinants qui soient, quoi.
Mais merci pour cette dernière réponse de notre catégorie Mémoire et Sommeil. On va passer à la carte blanche, qui est donc une description de séquence. Mm-hmm. Et notre petite règle que tu peux respecter ou non, mais bon, c'est juste pour être vraiment dans une description assez précise et assez sensitive, de décrire une scène que tu aimes particulièrement, ou en tout cas qui t'a marqué, comme si tu étais à l'intérieur. Donc je te laisse présenter le film.
Donc j'ai choisi une scène de Cairo, de Kiyoshi Kurosawa, qui est un film que je pense avoir découvert la télévision pour le coup, que j'ai vu en salle très tard, que j'ai pu programmer sur une copie 35mm, et je pense que c'est là où je l'ai vu la première fois en salle, donc quasiment plus de 10 ans après l'avoir vu, et que pour le coup c'est un film que j'ai beaucoup vu, ça fait partie de mes films préférés. Et la séquence que j'ai choisie, je pense qu'elle se place à peu près aux deux tiers, à la moitié du film, quelque chose comme ça. Un personnage, donc c'est, faut que je donne un peu le contexte du film, j'imagine quand même. Voilà, donc c'est un film dans lequel, pour aller très vite, les fantômes reviennent de l'au-delà, puisque l'au-delà, a priori, on ne le savait pas, mais fonctionne un peu comme un cloud. Et en gros, il est saturé et les fantômes reviennent sur Terre via une sorte de virus informatique. Donc ça se passe dans un Japon contemporain de la fin des années 90. Comme souvent chez Kiyoshi Kurosawa, on est dans un monde qui est déjà fortement en voie de déshumanisation. Ça se passe beaucoup dans des bureaux, des bibliothèques, des grands ensembles, des lieux publics. Et c'est déjà très froid. Et en plus, quand on rajoute les fantômes et que du coup, peu à peu, on vide l'espace des êtres humains, on est dans un truc...
spectral.
Ouais, voilà, purement spectral. Et il y a tout un rituel pour faire apparaître un fantôme. D'abord, il faut traîner sur une espèce de site internet, de trucs de webcam super bizarres. En plus, à la fin des années 90, j'imagine que vu que c'était déjà une technologie encore un peu balbutiante, ça devait paraître vraiment extrêmement tordu comme film. Alors qu'aujourd'hui, en 30 secondes, on peut aller sur n'importe quel truc de cam... sur nos téléphones, mais à l'époque ça devait être quand même vraiment zarbi. Et donc une fois qu'on a été sur ce truc, ça nous fait imprimer une sorte de manifeste, et en gros il faut aller condamner une porte avec une bande rouge, et c'est derrière cette porte que le fantôme va se matérialiser physiquement. La scène que j'ai choisie, c'est donc une scène d'apparition. Il y en a plusieurs tout au long du film, mais celle-ci elle est extrêmement traumatique, parce que je la trouve absolument terrifiante. C'est une des scènes qui me fait le plus peur au cinéma.
Et c'est ton film préféré.
Et c'est mon film préféré. Et en même temps, c'est un film que j'adore, alors que Il y a beaucoup de films d'horreur que j'aime, mais je les aime pas forcément parce qu'ils sont des films d'horreur. C'est un film que j'adore parce que je trouve que c'est un film qui utilise le genre pour dire des choses tellement fortes sur le monde, parce que je pense qu'au-delà d'un film d'horreur, c'est un immense film d'amour. Et parce que j'ai appris avec ce film, et c'est des trucs qui sont confirmés plus tard dans la carrière de Kurosawa, notamment avec son film qui s'appelle Vers l'autre rive, qu'en fait les fantômes sont pas des monstres. Et déjà dans Kairo, les fantômes sont pas des monstres, ils tuent, mais ils sont juste le symptôme d'une société qui est elle-même le problème. Et donc ils font très peur dans Kairo, ils finissent par plus faire peur, notamment dans Vers l'autre rive. Mais c'est pas eux qui sont la force diabolique. Il y a pas de force diabolique, en fait. C'est ça, surtout, qui est très fort dans le film. Mais n'empêche que cette scène est absolument terrifiante. Et donc, on a un personnage secondaire qui voit une porte encadrée de rouge. Comme souvent chez Kurosawa, ça se passe dans une sorte de... Là, je pense qu'on c'est à côté de l'immeuble d'un autre personnage. Donc, on doit être vaguement dans une espèce de cour, d'arrière-cour, de trucs bordéliques, d'entrepôts. Mais là, je pense qu'on est plutôt dans des espèces de trucs qui feraient HLM, quoi. Enfin, toujours chez lui, mais particulièrement dans Kairo, on est toujours dans des grands ensembles, des décors un peu post-industriels. Et donc, il voit une porte encadrée de rouge. Et lui, c'est un personnage qui ne sait pas ce que ça signifie, je pense, à ce moment-là du récit. Donc, il ouvre la porte. Il se retrouve dans une sorte de... ça fait très hall de chaufferie. Enfin, c'est une pièce toute bétonnée, toute froide. Et qui, j'imagine, doit avoir une espèce d'odeur de renfermé. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant, puisque le film... Le film pourrait presque être projeté en odorama, en fait. Enfin, c'est un film qui est tellement dans les glauques, dans les verres, qui devrait avoir une sorte d'odeur un peu rance, assez fascinante, et particulièrement cette pièce... Et en fait, au fond de cette pièce, il y a une peinture qui est quelque chose qu'on revoit pas. D'ailleurs, dans le reste du film, le manifeste qui s'imprime a un côté très graphique, mais c'est quand même de la calligraphie. Les fantômes, eux-mêmes, quand ils disparaissent, laissent des taches au mur. Des taches, on dirait presque que Bacon a fait la direction artistique du film, parce qu'ils ont une espèce de taches glauques, un peu de moisissure noire. Mais là, on est quelque chose... C'est vraiment une peinture, ce qu'ils voient. Donc, je sais... Est-ce que j'ai plus le film 100% en tête, mais...
c'est une peinture rouge, on dirait que quelqu'un s'est fait tuer.
Visuellement, je vois, mais je sais plus si elle a un sens, en fait, à ce moment-là. Est-ce qu'elle a une explication narrative? Je suis même pas sûr.
Moi, en tout cas, je l'ai...
On parle de fantômes, mais on se rend compte que le sous-sol de la cinémathèque est hanté. C'est pas mal.
Non, mais le souvenir de... En fait, le personnage se réfugie, enfin, essaye d'aller derrière, mm-hmm. et t'as l'impression qu'il se fait. En fait, c'est comme son sang qui se serait étalé. Ouais. Moi, je l'ai pris vraiment comme ça, comme il y a aucun sang, mais s'il était déjà mort, tu vois. Donc, et de manière horrible en plus.
De toute façon, le suspense de la scène fait que au moment où il passe la porte, en tant que spectateur, c'est un moment du récit où on sait déjà ce qui se passe derrière cette porte. C'est-à-dire que on a une avance sur le personnage, donc il y a la scène, c'est une minute de suspense où on sait quand même qu'il a fait une bêtise. On a cette avance-là, et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que la séquence, alors déjà, elle a un découpage absolument incroyable, puisque donc la pièce est une sorte de couloir, et la peinture est à l'opposé de la pièce par rapport à la porte d'entrée. Donc, il avance vers le fond de la pièce. Et je pense qu'il y a un champ contre champ où on voit le personnage avancer vers la peinture de dos. Et ensuite, on a le contre champ qui filme vers toute l'étendue du couloir. Et comme c'est une figure récurrente dans son cinéma, mais c'est particulièrement brillant dans Kairo, il y a un endroit sombre, il y a un recoin avec un coin d'ombre, et au bout d'un moment, on y voit une forme humaine, absolument impossible, en tout cas à la première vision du film, de savoir si c'était déjà là et on l'a pas vu parce qu'on regardait pas ça, ou si ça apparaît à un moment. Mais donc voilà, le fantôme apparaît là, et le fantôme va avancer vers le personnage, qui est donc à l'autre bout de la pièce, où il y a une peinture et devant un canapé. Et il y a cette particularité qu'en fait le fantôme est interprété par une danseuse qui fait des mouvements saccadés, extrêmement étranges et extrêmement perturbants. La scène est presque complètement silencieuse, en tout cas dans ce plan-là, dans le plan de l'apparition. Il n'y a quasiment pas un bruit. Il n'y a même pas le bruit qui serait peut-être absolument plus terrifiant s'il l'avait mis, qui est que ça a beau être un fantôme, ils sont physiques, donc le sol devrait crisser, surtout que c'est un sol en béton, et qu'elle a des mouvements en plus chaloupés, donc ce ne serait pas un son de pas régulier, mais un truc un peu à choper, qui... Heureusement que ce n'est pas dans la scène, parce que je pense que je ne pourrais même pas la revoir. Mais donc le fantôme avance silencieusement vers le personnage, et la caméra est placée derrière le personnage qui est derrière le canapé, avec le fantôme qui avance. Le fantôme avance, avance, avance. C'est toujours quasiment silencieux. Je ne sais même pas s'il y a un petit peu de son, peut-être du personnage qui respire, mais je ne suis même pas sûr de ça. Moi, j'ai l'impression que pour moi, il a complètement vidé le plan de son. Et au moment où le fantôme est à, je pense, 1 ou 2 mètres du personnage, la caméra fait un travelling vers le bas. Donc le long du corps du personnage de victime, et passe sous le canapé, et alors que lui se baisse également, parce que plutôt que d'essayer de fuir, il a un espèce de réflexe primaire de peur, et il se met en boule derrière le canapé, donc la caméra le suit, et soudainement on voit qu'il n'y a plus les pieds du fantôme. Et tout ça est dans le même plan, donc c'est déjà une merveille de mise en scène. Ça te capture dans un point de vue qui est extrêmement malaisant, puisque tu es dans celui d'une victime qui fait un truc débile, comme souvent dans un film d'horreur. Mais en même temps, ça fait tellement peur, parce que c'est tellement pas habituel comme représentation de la peur. Ça ne fait pas de bruit, ça n'est pas particulièrement monstrueux ou difforme. C'est juste une femme qui a une sorte de robe noire extrêmement simple, unie. Mais c'est tellement perturbant. Et il y a ce truc, donc tu dis, bon, alors elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Elle a disparu, enfin tout. Et puis, en fait, tu vois, là, ça coupe et tu vois quand même un gros plan du visage de l'acteur qui relève vers... Et tu sais qu'en fait, elle va arriver par-dessus le canapé. En fait, elle a juste... c'est une question de timing. Elle a juste passé par-dessus le canapé. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et il fait... Et c'est même pas un jumpscare, c'est ça aussi qui est génial dans la manière dont il fait peur, Kurosawa, c'est qu'on n'est jamais dans les gimmicks habituels, ou quand on est dans un truc un peu habituel, il va toujours trouver une manière de détourner, de le faire autrement dans sa mise en scène. C'est-à-dire que, en fait, on sait déjà qu'on va avoir l'apparition du visage du fantôme par-dessus l'horizon du canapé vu en contre-champ. Donc, plutôt que d'avoir un plan où ça fait boue, on a le plan du visage de la victime qui anticipe l'apparition, et ça fait encore plus peur que juste un espèce de jumpscare avec un son tout pourri. Mais on a ce plan, et là en plus il y a de la musique qui commence. Je pense qu'elle commence de manière peut-être discrète un tout petit peu avant, une fois qu'on voit plus les pieds, mais en tout cas ensuite on a le plan en contre-champ du visage du fantôme, et ensuite on a aussi le champ où on a le fantôme de dos qui se baisse sur la victime, et là on a une espèce de musique de chorale extrêmement spectrale qui monte jusqu'à ce que voilà, on coupe, on voit pas ce qui va arriver au type, mais on se doute que il est plus là. Mais je crois que la séquence est en plus extrêmement brève. Ça doit faire 1 minute 10, quelque chose comme ça. C'est très très court.
C'est beaucoup trop long en même temps.
Mais voilà, moi la première fois que je l'ai vu, j'avais le souvenir d'un truc absolument interminable.
C'est physique en plus, même en tant que spectateur.
Ouais, c'est très physique.
Ça m'a crispé la première fois.
Et voilà, c'est un film que j'ai revu pas mal de fois. La scène, elle reste quand même très bizarre à regarder. Je l'ai trouvé beaucoup. J'arrive à apprécier sa beauté. Mais il a fallu quand même un certain temps. Mais voilà, c'est d'un minimalisme et en même temps d'une puissance en termes de mise en scène juste sidérant. C'est la matière dont les cauchemars sont faits, cette scène, quoi. C'est hyper marquant, quoi.
Non, mais oui, puis t'as réussi à très bien la faire revivre. Moi, personnellement, ça m'est revenu en tête. C'est vraiment terrifiant, mais enfin, bref. On va passer à un cinéma un peu plus, toujours aérien, mais un peu plus doux, enfin un peu plus léger, qui est notre section transmission. On t'a demandé s'il y avait un film dont tu avais tant entendu parler et dont tu avais tant décrit, que tu n'avais pas forcément envie de voir.
Et j'ai choisi Gravity, que donc je n'ai toujours pas vu. Et en plus, c'est marrant, on en a reparlé récemment par rapport à Ad Astra, le film de James Gray. Et non, c'est un film que je n'ai pas du tout envie de voir, globalement, parce que je n'aime pas souvent les films de Cuaron.
même si son Harry Potter, c'est peut-être le seul qui est regardable.
Et que tu n'as pas vu Roma.
J'ai vu Roma. J'aime pas beaucoup. Ah. Je l'ai vu en salle.
Pourtant. Moi aussi, je l'ai vu en salle.
C'est un autre débat, ça.
Donc bon. Là, sur cette question de... Parce que là, pour le coup, en ayant vu le film en salle avec une vraie copie 7.1, je me dis, ça doit être vraiment pénible à regarder sur son ordinateur. Et je... Et on n'aura jamais les chiffres. A priori, si Netflix change pas... Ah, mais combien de gens ont lancé le film et l'ont fini? Moi, je... Et c'est même pas parce que j'aime pas le film. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense
non,
du film.
Fait pour
c'est juste que c'est pas un truc qui peut se regarder sur son ordi, au casque. C'est pensé comme un vrai grand spectacle de cinéma. Donc, au-delà de ce que je pense sur le film, là, il y a un truc sur les conditions de diffusion qui est un peu problématique. Mais donc, non, Roma, c'est pas un film que j'aime beaucoup. J'avais bien aimé Les Fils de l'Homme. Mais voilà, donc déjà, c'est pas un cinéaste qui, moi, me passionne. Et en effet, c'était ce truc du film qui devient immédiatement une sorte de phénomène, de machin. On entend parler dans tous les sens, et le son, et les effets spéciaux, et machin, et trucs. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un me parle du film, j'ai l'impression qu'il me raconte un tour qu'il fait dans un manège. Et c'est une idée de cinéma qui me fatigue un peu, en fait. Donc j'ai jamais fait l'effort de le voir. Puis souvent, quand je rattrape un film sur lequel je suis a priori pas forcément emballé, c'est quelque chose que je vais voir chez moi. Et on m'a tellement dit que si tu vois pas Gravity en 3D, en 7.1, machin et tout, tu vois pas vraiment le film. Donc voilà, juste une opportunité manquée sur un truc qui me passionnait pas et qui a fini par complètement me gonfler. Mais oui, donc alors peut-être que je me gourre, hein, peut-être que c'est aussi un grand film d'acteur et tout, j'en sais rien, mais voilà, j'ai l'impression de moi aussi avoir fait mon tour de manège sans même l'avoir vu.
Et tu ne le verras peut-être pas, je ne sais pas.
Bien moyen que je le vois jamais. Ouais.
C'est pas grave, on peut pas tout voir de toute façon, mais tu nous parlais de Werner Herzog, et notre prochaine question c'était le film ou les films impossibles à programmer, ou à programmer seul, et tu nous as répondu... Ennemi intime de Werner Herzog.
Ouais, parce que je sais pas si j'aurais pu répondre à impossible à programmer. Après, moi, je suis pas forcément très cinéma bis ou ce genre de choses. Donc, l'idée de montrer un film juste parce qu'il est mauvais mais rigolo, ça m'attire pas forcément. Mais en même temps, c'est un geste de programmation que je comprends complètement et dans lequel je peux me retrouver de temps en temps. Donc, un film impossible à programmer, je sais pas ce que c'est. Sauf si on pense à des films impossibles parce qu'on sait qu'on ne peut pas les atteindre. Je fais partie de ces gens qui veulent toujours voir le dernier film de Vincent Gallo qu'il a montré à Venise il y a quelques années et qui apparemment refuse de... Something Written on Water or Written on Wind, je ne sais plus exactement quel est le titre. Mais voilà, le film a été montré à Venise, il s'est fait tellement trasher par la critique qu'il a été vexé comme un pou et qu'il a décidé de ne pas sortir le film. Ou les distributeurs qui l'ont approché apparemment ont demandé des millions de dollars. Et donc le film, il est chez lui, quoi. Personne quasiment l'a vu. Mais j'aimerais beaucoup, parce que j'aime beaucoup ces autres films. Donc voilà, à part des films, en fait, c'est même pas impossible à programmer, c'est des films qu'on ne peut pas voir. Je sais pas ce que c'est qu'un film impossible à programmer. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on devrait toujours pouvoir se frotter à n'importe quelle œuvre. Après, bien sûr, ça dépend du contexte, de comment on le fait. Mais je crois pas qu'il y ait des films qu'on puisse pas montrer. Il y a des choses qu'on peut pas dire sur les films. Il y a des gens qu'on peut pas forcément inviter à parler sur des films. Mais des films qu'on peut pas montrer, là, moi, comme ça, je sais pas. Donc, j'ai choisi la deuxième option. Des films qu'on peut pas montrer seul. Et c'est pas pour dire qu'Ennemi intime est pas un film qui se voit très bien sans qu'on sache de quoi il parle. Au contraire, il marche presque comme une sorte de best-of de ce que Werner Herzog a fait.
C'est complètement un making-of.
Ouais, ouais. Avec Klaus Kinski. Oui, c'est une sorte de making-of. Bah, y a pas mal de choses tournées à l'époque sur le tournage. Je pense que pour évoquer Fitzcarraldo, il emprunte. Je me souviens plus du nom du réalisateur, mais il emprunte à celui qui a fait un making-of. En fait, mieux que Fitzcarraldo. J'adore Werner Herzog, mais j'aime pas beaucoup Fitzcarraldo. Mais il y a ce film qui s'appelle Burden of Dreams, qui est donc un documentaire sur le tournage de Fitzcarraldo, et où on voit déjà en fait le conflit, la tension, tout ça. Donc je pense qu'il emprunte pas mal d'images à ça pour évoquer Fitzcarraldo. Et c'est un making-of, mais en même temps c'est aussi l'évocation d'une amitié artistique, d'une amitié humaine. Ça, je trouve, ça permet aussi Herzog, c'est toujours aussi, je trouve, un grand metteur en scène de lui-même. Donc ça permet des séquences quand même extrêmement drôles de Herzog qui évoque la jungle alors qu'il a passé énormément de temps dans la jungle pour y faire ses films et qu'il en parle d'un endroit comme d'un endroit absolument abominable qui veut nous tuer, tout ça. Je crois que c'est dans ce film-là où il raconte l'anecdote du type qui a dû se s'auto-amputer d'une jambe ou d'un bras suite à une morsure de serpent.
Ouais, enfin, non, ou c'était juste avant, enfin, ou c'est pas un truc où il a. Ah non, je sais plus s'il a, il s'est amputé ou alors il était genre à deux doigts, je sais plus.
Je crois que c'est quelqu'un qui a dû s'amputer parce qu'il était loin du campement. Enfin, tout est possible avec Herzog. Ouais, mais voilà, il y a quand même toute une série de scènes où il livre des anecdotes toujours difficiles à croire, mais absolument incroyables quand c'est lui qui les raconte. Et c'est vrai que c'est un film qui donne en même temps tout de suite envie de revoir Aguirre, Fitzcarraldo, même Cobra Verde, qui est aussi un film, je trouve, un peu moins bon, ou Nosferatu, ou celui qu'ils ont tourné juste après Nosferatu, peut-être celui qui est mince, Wojciech, le plus beau, qui est, j'ai l'impression, toujours le moins connu, mais qui est peut-être vraiment le plus beau qu'ils ont fait ensemble. Kinski est absolument incroyable. Et puis cette idée de metteur en scène un peu sadique pour le coup, mais de lui faire tourner le film juste après Nosferatu et d'utiliser la fatigue du tournage de Nosferatu pour le faire jouer ce personnage au bout du rouleau, c'est juste, enfin, ça donne un truc incroyable. Mais donc tout de suite on a envie de se replonger dans les films, donc c'est toujours très frustrant de montrer Ennemi Intime tout seul, et voilà. En même temps ça marche comme un résumé, et en même temps c'est aussi une porte d'entrée, donc c'est des objets qui sont toujours un peu complexes à manipuler. Après, à moi, à chaque fois que je l'ai montré, je l'ai toujours montré dans le cadre d'une rétro, quoi. Donc, si on montrait pas tous les films qu'ils ont fait ensemble, on en montrait,
ça aurait pas de sens, quoi, de...
on en montrait au moins une poignée. Donc, mais c'est un film. Enfin voilà, quand quelqu'un veut faire une séance autour d'Herzog, il prend pas ce film-là tout seul. Oui. Alors qu'en même temps. Ça pourrait aussi, mais voilà, ça fait partie de ces films qui ont besoin de leur compagnonnage, quoi.
C'est vrai.
Et comme dernière question, enfin avant-dernière, c'est le film que tu as préféré programmer.
Et j'ai choisi Certaines femmes de Kelly Reichardt, parce que c'est un film, c'est arrivé rarement, ça arrive extrêmement rarement de toute façon, mais ça nous était arrivé plusieurs fois au Grand Action. C'est un film qu'on a passé pendant un an. Non-stop, entre le moment où on l'a sorti et le moment où on a fait la dernière séance. Donc voilà, bah, les premières semaines, on l'a sorti, donc on est passé tous les jours, toutes les séances. Et au bout de quelques semaines, c'est un film qu'on passait une ou deux fois par semaine, mais on avait du monde tout le temps. Et c'est un film que j'ai adoré programmer parce que j'ai eu le sentiment qu'on avait collectivement, que ce soit avec le distributeur, les autres salles, qui l'ont programmé en France, réussi à prouver un truc à l'industrie, qui n'aura bien sûr pas de poids, c'est juste qu'on se l'est prouvé surtout à nous-mêmes. Mais c'est un film qui a failli ne pas sortir, en fait. C'est un film qui avait été acheté par Sony Pictures pour l'international, qui avait été présenté à Sundance, qu'en France avait été présenté quelques mois après au Festival de La Roche-sur-Yon, et à Deauville aussi, juste avant. Et entre Deauville et La Roche-sur-Yon, donc à un mois et demi d'intervalle, l'info était tombée que c'était un film qui sortirait en VOD, que Sony voulait pas investir sur la sortie salle du film, et que voilà, on n'allait pas voir le film en salle, alors que Kelly Reichardt, c'est pour moi une des cinéastes les plus importantes en activité, que ses derniers films marchait difficilement, mais c'était quand même des films qui avaient une certaine visibilité critique, qui avaient ses fans. Donc c'était pour moi un petit choc d'apprendre que le film sortirait même pas en salle. Donc voilà, d'apprendre ça, ça avait été un truc très perturbant. Et in fine, in extremis, quelqu'un m'apprend qu'il va y avoir un distributeur, quelqu'un que je connaissais pas du tout, une toute petite structure, donc on le contacte tout de suite, on lui dit qu'on adore le film, et on sort le film, et le film fait un carton incroyable. C'était la plus grosse entrée sur une sortie de film au Grand Action depuis très très longtemps. Je crois que sur le premier dimanche, on a fait un truc que moi j'ai jamais vu sur une sortie, c'est-à-dire sur des événements, une avant-première. Oui, mais une sortie, on a dû refuser des gens le dimanche après-midi de la grande salle de plus de 220 places. Et ça, c'est la seule fois où c'est arrivé. Et voilà, et en plus, on l'a tenu un an à l'affiche, et c'est un film extraordinaire, c'est une cinéaste extraordinaire, et c'est un film qui a failli partir dans les limbes, et qui a au final été en plus pour tous les gens qui se sont impliqués, quelque chose qui a été une très bonne affaire. Donc, voilà, c'est un rêve de programmation, quelque chose comme ça. Mais c'est malheureusement une exception qui confirme la règle. Et voilà, et là, en plus, elle vient de finir son nouveau film, qui s'appelle First Call, qui est en train de faire la tournée des festivals d'automne. Voilà, mais j'espère qu'on va pas devoir remettre en route tout un plan de sauvetage du soldat Rijkaard, mais...
On espère en tout cas.
Mais voilà, c'est un film sur lequel il s'est passé plein de choses super belles et qui a en plus été du coup, in fine, son film le plus vu. Je pense que plein de gens ont découvert son cinéma avec ce film et c'était très chouette. C'était très très chouette et c'est pour ça que c'est un souvenir pour moi assez fort de programmation parce que c'est aussi dire que la programmation est un geste qui peut vraiment avoir un impact sur la vie des films, sur... parce qu'on a toujours ce truc de dire bien sûr que les cinéastes font pas forcément les films pour la vie économique qu'ils vont avoir pendant un an et qu'on fait un film pour tout quoi, pour le futur mais en même temps un film qui n'a pas de vie immédiatement quand il est fait c'est compliqué pour lui d'imaginer qu'il sera redécouvert 50 ans après.
Il est déjà tué dans l'œuvre.
Il peut déjà être tué dans l'œuvre, donc bien sûr qu'il est là, qu'il y aura toujours des gens qui arriveront à trouver le film. Mais je reste convaincu qu'un geste de programmation fort, c'est aussi arriver à installer le film dans l'esprit des gens pour qu'ensuite ils puissent y revenir. Mais pour ça, il faut déjà qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un truc de planté. Et je crois que voilà, un geste de programmation, c'est aussi ça. C'est aussi réussir déjà à installer le film dans l'espace culturel dans lequel on existe, dans l'esprit des spectateurs.
Grand public
ou non, je trouve que c'est toujours une question compliquée de se dire qu'on veut toujours aller vers plus de public. Bien sûr qu'au Grand Action, on a toujours envie d'avoir plus de public. Bien sûr que même au Festival de Locarno, on veut toujours avoir plus de public. Mais je ne crois pas qu'on soit immédiatement sur une bonne échelle de choses quand on se dit qu'on veut toujours faire plus de monde. Ça implique des choses de faire toujours plus de monde et ça implique souvent d'utiliser des méthodes de travail différentes ou de montrer des choses un peu différentes. Donc à un moment, je pense qu'avoir l'honnêteté de savoir qu'on a atteint une sorte de seuil qui est celui où on fait le meilleur travail possible, on montre les meilleures choses possibles, mais qu'on ne peut pas espérer toucher plus de monde si on continue à montrer la même chose. Voilà, donc, et c'est la même chose pour c'est un discours que certains cinéastes peuvent avoir aussi, c'est-à-dire qu'ils savent que s'ils veulent faire des films qui marchent mieux, il faut qu'ils les fassent d'une manière qui peut-être les intéresse moins. Et c'est des questions que tout le monde doit se poser. Faire toujours plus de monde, je sais pas.
D'accord.
Mais c'est, sur certaines femmes, faire énormément de monde, c'était génial.
ça donne de la joie au cœur. Mais on a beaucoup parlé de numérique. Et là, pour le dernier film dont tu veux nous parler, c'est un film qui est sorti à la télévision, si je ne me trompe pas, un truc qui a été fait pour la télévision. C'est notre question préférée avec Clément. C'est ton film Refuge. Et je vais l'introduire un petit peu parce que c'est un film que je n'ai pas vu mais que j'ai très très envie de voir qui s'appelle Ma première brasse de Luc Moulet qui est un documentaire et qui a l'air vraiment beaucoup trop drôle.
C'est marrant que tu dises un documentaire.
Alors le documentaire c'est quand même...
C'est pas si je le présenterais comme un documentaire même si en fait c'en est un, factuellement c'en est un.
Et c'est ça qui est merveilleux avec le documentaire, c'est qu'il a mille et une formes.
Ouais, c'est ça qui est aussi très fort avec Luc Moulet toujours, c'est qu'il fait toujours tout et son contraire. Et en effet, c'est un moyen métrage qu'il a fait pour une commande de la télévision en 81, je sais plus pour quelle émission exactement, mais c'était des questions de portraits de cinéastes, ou c'était quelque chose autour de l'autoportrait, je sais plus exactement. En tout cas, c'est un film dans lequel Luc Moulet se met en scène en tant que Luc Moulet. Et où il se confronte avec sa peur de nager. Il fait un film pour apprendre à nager, en fait. Donc, c'est un geste de cinéma qui, je trouve, désarmant de simplicité, hilarant, parce que Luc Moulet, c'est un des grands cinéastes burlesques qu'on a en France. Malheureusement, pas trop, trop méconnu, mais il est vraiment, vraiment incroyable. Et c'est un acteur qui a une espèce de comédie inhérente à son physique, c'est-à-dire que limite il rentre dans le champ et déjà on commence à sourire.
C'est vrai.
Parce qu'il a une espèce de physique tout particulier, une gestuelle, une diction aussi très très spéciale. Et donc Ma première brasse, c'est cette idée qu'on peut... Enfin voilà, j'étais quand même absolument fasciné quand j'ai découvert le film, dire oh, putain, on peut faire un film pour apprendre à nager, quoi. Là quand même on est dans un rapport au cinéma tellement personnel. Et en même temps ça parle à tout le monde, enfin tout le monde a appris à nager ou ne sait pas nager, mais tout le monde se positionne par rapport à cette question, donc on est automatiquement quasiment en empathie avec la quête qui est mise en jeu dans le film. Et donc en effet voilà, on va voir Luc Moulet essayer de nager pour la première fois. C'est hyper drôle, c'est un film qui part d'un truc tellement intime et qui en même temps peut toucher tout le monde que je trouve l'objet absolument fascinant. C'est un film qui est en plus fait en 16 mm, en effet avec une équipe de documentaristes. Je crois que c'est Richard Coppens qui fait la photographie, qui était le chef-op de Moulet sur à peu près tous ses films de cette époque-là, qui est ensuite devenu son producteur. Mais donc oui, on est sur une équipe très légère, 16 mm pour la télévision, noir et blanc. Mais en même temps, j'ai du mal à appeler ça un documentaire parce que c'est tellement une espèce de petite machine de fiction de soi qu'on est aussi dans un truc qui est...
Très autofictionné.
Pour moi, Moulet, on touche toujours à ça. On touche toujours énormément à la question de l'autofiction qui vient de la littérature et dans laquelle on n'a pas tant que ça d'occurrence au cinéma. Alors qu'en littérature, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un bouquin sur deux qui sort, c'est de l'autofiction. Mais au cinéma, ils sont pas très très nombreux. Et Moulet, c'est une des grandes figures de ça. Et Ma première brasse, c'est une de ses très très grandes réussites là-dessus. Et puis c'est un film tellement drôle. Il y a cette séquence incroyable où il se met à danser, qui est presque une séquence en fait que beaucoup de gens connaissent sans connaître le film ou même Luc Moulet, parce qu'elle est très souvent citée. Il se met à danser sur ce tube qui s'appelle Popcorn, qui est une chanson belge, je crois, des années 60, qui est un des premiers cartons de musique électronique en fait. Et donc encore une fois, en plus, ce truc d'une chanson, de découvrir un truc, ouais, c'est super. Et voilà, il se met à danser de manière extrêmement frénétique après avoir piqué une colère face caméra. Enfin, c'est une séquence incroyable, hilarante. Non, c'est un film. Moi, c'est un film que je revois très très régulièrement.
Parce que refuge de.
Parce que Moulet, en plus, ça a été important dans mon parcours parce que j'ai fait mon master de recherche sur lui, que je l'avais découvert pendant mes études, et que le fait de découvrir Luc Moulet de mon côté, ça a été aussi quelque chose d'assez important, je pense, dans mon approche cinéphilique. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir pas cessé de répéter que c'était des gens qu'on voyait pas assez. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte en découvrant Luc Moulet tout seul que voilà, quand on fait des études de cinéma, quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma, on pourrait presque dire quand on s'intéresse à l'histoire, il y a toujours une histoire officielle et il y a toujours des laissés pour compte, des gens qu'on met pas forcément dans les bouquins d'histoire. Et moi, découvrir Luc Moulet, de pas en avoir entendu parler à la fac, c'est quelque chose qui m'avait mis en colère en fait. On a un immense cinéaste burlesque, on a quelqu'un qui a accompli des gestes qui sont très singuliers tout au long de sa carrière, d'être à la fois un très grand critique et un très grand cinéaste, et de rester les deux, c'est très rare. Beaucoup de cinéastes ont été critiques, mais souvent ça se fait en deux temps. Lui, il a fait les deux de front. D'avoir été un cinéaste qui continue à faire du court-métrage tout au long de sa carrière, c'est très particulier aussi. D'avoir navigué entre télévision et cinéma, c'est très particulier. D'avoir touché à la comédie, au film historique, au western, au documentaire. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière absolument unique. Juste, ses films étaient presque pas vus en salle. Donc, là, je me suis rendu compte qu'il y avait ce truc quand même que, ouais, l'histoire était toujours écrite par les vainqueurs, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que t'as beau avoir une singularité et une importance dans ce que tu proposes en termes d'avancée esthétique comme originalité, en fait, si tes films ne marchent pas, bah, c'est pas toi qu'on mettra en avant après, quoi, quelque part. Donc ça avait été un truc déclencheur. J'avais travaillé sur lui, j'ai fait des recherches. Et ça m'a ouvert les yeux sur ce truc de toujours regarder ailleurs, de toujours chercher, de toujours essayer d'aller s'intéresser aux marges, quoi, de jamais se contenter de ce qu'on donne comme canon officiel, et de se dire qu'il y a, certes, c'est pas forcément le cas, hein, il y a des grands cinéastes qui font plein d'entrées que j'adore, mais on ne peut pas se contenter de ça. Il faut toujours aller chercher ailleurs. Et donc voilà, ma rencontre avec le cinéma de Luc Mollet, ça a été aussi le déclencheur, je pense, d'une envie par rapport à ça. Et particulièrement ma première brasse qui est une sorte de tout petit diamant noir qui est au centre de l'œuvre, quoi. On est à la fois dans le documentaire, dans le burlesque, dans l'autofiction. C'est un court-métrage, c'est pour la télévision, et en même temps, c'est un grand film de cinéma. Donc c'est super pour ça, quoi. Puis en plus, c'est toujours cette question aussi... on parlait tout à l'heure des films de Philippe Garrel, et comme quoi, c'est des films que je trouve qui devraient être très montré aussi en tant que modèle, quoi. Là, c'est pareil. Faire un film comme ça, aussi simple, aussi drôle et en même temps aussi intelligent, avec... je sais même plus quel était le budget du film, mais c'était ridicule. C'est toujours ridicule, les budgets des films de Luc Mollet. Mais le résultat ne l'est pas. Et je pense que... on peut toujours apprendre des gens comme ça. On peut toujours apprendre des gens comme ça. Parce qu'on devrait toujours apprendre à savoir faire moins... à savoir faire plus avec moins, pardon.
Ouais.
Ben merci beaucoup Victor.
De rien, merci pour l'invitation.
Pour nous avoir parlé de cinéma de manière aussi passionnée durant presque une heure et demie.
C'est pas vrai. Qu'est-ce que je suis bavard.
Et puis on en profite pour remercier quand même la Cinémathèque de nous avoir fait un petit sketch hanté au bon moment, parfait bon moment, puis de nous avoir pété leur sale son. Merci à Anna Mondico et Gabriel Régnier pour l'illustration et pour la musique. Et puis à bientôt.